Écoute. Écoute.
Bonjour, on fait un entretien à distance aujourd'hui puisque Arnaud Dubien, directeur de l'Observatoire franco-russe et chercheur associé à l'IRIS, est à Moscou. Bonjour Arnaud. Alors, première question peut-être, comment est la vie quotidienne d'un Français à Moscou après 7 mois de guerre?
Bonjour Pascal. La vie quotidienne à Moscou, je dirais, est paradoxalement, pour un Français, assez normale, au sens où, pour les étrangers qui sont certes moins nombreux, l'apparente normalité n'a pas vraiment changé. Encore une fois, c'est un sentiment assez paradoxal, alors qu'il peut-être changera pour l'ensemble de la société, et même sûrement pour l'ensemble de la société dans les jours qui viennent, ça a même sans doute commencé depuis quelques jours, mais pour les Français, les Occidentaux, il n'y a pas, si c'est la question, de signe d'animosité particulier à notre égard, bien que la France, comme les autres pays occidentaux, soit classée parmi les pays inamicaux.
Alors, la Chambre de commerce franco-russe a décidé de rester, beaucoup d'entreprises sont parties. Il y a une impression de vide quand on est occidental et qu'est-ce qui a amené la décision de rester sur place dans l'espoir de futurs jours meilleurs?
Alors, je ne dirais pas que beaucoup d'entreprises françaises sont parties, certaines sont parties, d'autres l'ont fait savoir, il y a d'autres positionnements intermédiaires. Il faut savoir que la France avait, avant le 24 février, des positions économiques majeures en Russie, en termes d'investissement notamment, en termes d'emploi. La France était et peut-être encore le principal employeur étranger en Russie, donc et ce qui contrastait singulièrement avec le recul généralisé des positions économiques françaises dans les autres BRICS et par ailleurs. Pourquoi rester? Parce que les entreprises restent, encore une fois, certaines d'entre elles, et la majorité d'entre elles restent. Nous restons aussi en tant qu'observatoire parce que, je dirais, la situation à observer, si elle est consternante, n'en reste pas moins intéressante et importante, y compris pour la France, et pour les médias français, pour nos contacts français. Donc, le sujet Russie, qui a évidemment beaucoup changé, reste un sujet majeur.
Alors, on a été beaucoup frappé par cette mobilisation partielle et les conséquences qu'elle a entraînées. Beaucoup de Russes semblent fuir. Est-ce qu'il y a vraiment une nouvelle donne avec cette mobilisation partielle et la réaction d'une grande partie des gens qui étaient concernés?
Une nouvelle donne, certainement. C'est un deuxième choc après celui du 24 février, le déclenchement de l'intervention militaire qui ici est appelée, ou était appelée, opération spéciale et qui, de fait, est devenue une guerre très rapidement du fait de l'enlisement militaire russe. Donc, un deuxième choc après quelques mois de situation assez étonnante, de déni largement partagé. C'est-à-dire que si vous n'avez, après le premier choc, de larges segments de la société russe ont préféré fermer les yeux, ignorer ce qui se passait, et c'était parfaitement possible. Il y a une forme de pacte d'hypocrisie entre le pouvoir et de larges segments de la société. Au fond, si vous n'êtes pas militaire, s'il n'y avait pas de militaire dans votre famille, ou si vous n'habitez pas les districts frontaliers des régions de Koursk, Bryansk, Voronej, eh bien, vous pouviez, jusqu'à ces derniers jours, vivre assez normalement. D'autant plus que l'impact économique sur la population russe n'est pas spectaculaire. Aujourd'hui, évidemment, c'est fini. C'est fini puisque des centaines de milliers de personnes ont été rappelées sous les drapeaux. On voit effectivement une nouvelle forme de sidération. On voit que des dizaines de milliers de Russes, alors pas forcément d'ailleurs ceux qui sont concernés par la mobilisation, mais ceux qui pensent pouvoir l'être au cours d'une deuxième vague, quittent la Russie. À ce sujet, je soupçonne que le Kremlin n'est pas tout à fait contrarié par cette fuite massive. De façon un peu cynique, on peut estimer que pouvoir pense sans doute que ce sont des éléments assez peu fiables politiquement et que la police a peut-être d'autres choses à faire ces jours-ci et dans les semaines à venir qu'éventuellement les réprimer, les matraquer dans les rues de Moscou et de Saint-Pétersbourg. Donc, un choc, des images assez spectaculaires, notamment au Daguestan ce week-end. Il faut bien comprendre que, apparemment, encore une fois, la mobilisation n'est pas répartis de façon égale sur le territoire national. Apparemment, on mobilise plus proportionnellement dans les républiques nationales, Yakoutie, Buryatie, notamment en Sibérie, un peu plus aussi dans le Caucase, bien que la Tchétchénie ait dit ne pas être concernée, puisqu'elle a envoyé beaucoup de gens avant la mobilisation. À l'inverse, il semblerait que Moscou et Saint-Pétersbourg soient assez épargnés pour au moins deux raisons, comme je le disais, sans doute pour ne pas éveiller, d'une part, des sentiments protestataires trop forts et pour éviter que les, y compris les enfants de l'élite, soient directement concernés. Donc, et ça commence à créer des problèmes, notamment au Daghestan, mais également en Sibérie, où le sentiment, la compréhension des enjeux russo-ukrainiens n'est évidemment pas la même qu'à Moscou ou ailleurs.
Alors, tu dis que les autorités peuvent se satisfaire que des contestataires possibles puissent partir. Ça rappelle quand même un peu le parti se renforce en expurgeant. Est-ce qu'il n'y a quand même pas un risque d'affaiblissement de la nation russe ? Des gens sont déjà partis avant, juste après la guerre, parce qu'ils ne pouvaient plus s'exprimer. Maintenant, certains partent de peur d'aller se faire trouer la peau pour une cause qui n'est pas la leur. Est-ce que c'est peut-être pas ça le plus grand signe d'affaiblissement potentiel de la Russie sur le moyen long terme ?
Absolument, ça fait partie des grandes tragédies russes cycliques, récurrentes, ces saignées qu'on a vu également au début des années 20, après la Révolution, ces paquebots d'intellectuels qui quittaient la Russie. On a eu également les dissidents dans les années 70, numériquement moins nombreux, mais qui étaient quelque part les forces vives de la nation. Bien sûr, à court terme, encore une fois, bon, ça se voit un petit peu, surtout d'ailleurs dans les capitales concernées, mais l'un des enjeux pour la Russie, c'est sa trajectoire à moyen et à long terme. Ça vaut aussi pour les sanctions. Les sanctions ne frappent, ne sont pas indolores à court terme, mais elles ne feront pas s'effondrer l'économie russe dans les 18 mois qui viennent. Par contre, la mobilisation comme les sanctions vont évidemment avoir un impact sur la trajectoire du pays à moyen terme, sur son potentiel de développement. Et on peut penser, encore une fois, que les gens qui quittent la Russie sont précisément ceux qui pourraient ou auraient pu, si on est pessimiste, contribuer à sa modernisation.
Alors, est-ce que Poutine n'a pas perdu la main ? On a l'impression que jusqu'ici, jusqu'au 24 février, avec brutalité peut-être, mais il maîtrisait la situation, il avait fait grandir le statut de la regrandir le statut international de la Russie. Aujourd'hui, on a l'impression que les choses lui échappent et que, ne sachant pas comment reprendre contrôle de la situation, il multiplie les erreurs stratégiques.
Alors, il a perdu la main assez rapidement sur le théâtre ukrainien et ça s'est accentué ces derniers jours avec la débâcle à l'est de Kharkov. C'est ça qui déclenche en fait la mobilisation partielle. Je ne suis pas dans le secret des dieux et personne ne sait véritablement ce que se sont dit les dirigeants russes entre eux et ce qu'ont dit les militaires à Vladimir Poutine. Mais on peut raisonnablement penser que ces derniers lui ont dit que sans mobilisation, il y aura un deuxième Kharkov. Or, le cas échéant, il y aura un sérieux problème pour Poutine. Aujourd'hui, il n'est pas en difficulté en Russie, il est en difficulté sur le théâtre ukrainien, ces troupes manifestement ne produisent pas les résultats attendus par direction politique. Il est en difficulté partiellement sur la scène internationale. En Russie même, il n'est pas encore en difficulté. Simplement, il est dans une situation assez inédite où il a dû faire un choix qui n'était pas le sien initialement. Je pense qu'il a tout fait pour éviter la mobilisation partielle. Parce que il comprend et les gens autour de lui comprennent que c'est porteur de risque. Il faut se méfier des parallèles, mais évidemment le parallèle qui vient à l'esprit c'est 1917. On sait que les guerres peuvent avoir des effets boomerang ou des effets dévastateurs sur des régimes en apparence très stables ou qui ont été longtemps stables. Donc il sait le problème. Mais il est conscient aussi que sans cette mobilisation partielle, eh bien militairement, le deuxième débâcle était vraisemblable. Et là, le problème politique interne aurait été encore plus grand, puisque les Russes, de façon générale, pardonnent beaucoup à leurs dirigeants, beaucoup trop, sans doute. Mais ils ne pardonnent pas la faiblesse ni la défaite. Et ça, Poutine le sait.
Mais en même temps, là. quel peut être son horizon? À partir de quand peut-il dire qu'il a gagné la guerre? Et en fait, on semble plutôt se diriger vers une guerre de longue durée, puisque Zelensky, lui, veut reconquérir non seulement les territoires perdus depuis le 24 février, mais également la Crimée, et ceux perdus depuis 2014.
Alors, la vérité, c'est que personne ne sait comment ça va se passer, comment ça se terminer. En revanche, tout le monde est à peu près d'accord sur le fait que ça va durer. Ça va durer plusieurs mois, probablement en 2023.
Il n'y aura pas d'effondrement de l'armée russe. Ce qui s'est passé là n'est pas le prélude à une répétition générale et un effondrement massif de l'armée russe.
Je ne crois pas, et je ne vois pas d'analyste militaire sérieux, ni aux États-Unis, ni en Europe, qui table là-dessus. Et d'ailleurs, même au-delà de la poussée spectaculaire des premiers jours, il semblerait que l'armée russe ait stoppé l'hémorragie et que l'armée ukrainienne bute sur des villages de façon assez inattendue. Donc, encore une fois, restons prudents. Il y a eu beaucoup de surprises depuis le 24 février, des surprises plutôt mauvaises pour l'armée russe. Mais l'effondrement généralisé ne me paraît pas l'hypothèse la plus probable. Alors, la question, en vérité, c'est celle des objectifs russes. L'objectif minimal, il est connu, c'est le Donbass, c'est-à-dire les anciennes régions de Lugansk et Donetsk, rebaptisées depuis 2014, partiellement en tout cas, République populaire de Lugansk et Donetsk. Aujourd'hui, la Russie contrôle 98% de Lugansk et environ 60% de celle de Donetsk. Ça, c'est le programme, je dirais, minimum pour que Vladimir Poutine puisse proclamer une victoire. Mais on peut penser que ça ne s'arrête pas là. Je pense que l'objectif de la Russie, c'est en réalité de ne rien céder de ce que l'a conquis. Et c'est tout le sens des référendums qui sont organisés ces jours-ci. Référendums sur lesquels, d'ailleurs, il y aurait beaucoup à dire. Mais on s'achemine vers une annexion. Encore une fois, il est peu vraisemblable que, une fois l'annexion proclamée, il se dit à Moscou que vendredi prochain, c'est-à-dire le 30, Vladimir Poutine pourrait procéder à cette décision. Eh bien, à partir de là, la rétrocession paraît très peu probable.
Pourra-t-il tenir militairement face à une Ukraine de plus en plus armée par l'Occident? On peut dire que les réserves ukrainiennes, en termes ne serait-ce que matériels, sont sans commune mesure avec la Russie, ceux de la Russie.
Alors ça se discute en réalité. L'un des objectifs, me semble-t-il, de la mobilisation partielle, c'est de rééquilibrer le rapport de force humain, c'est-à-dire que l'Ukraine mobilise déjà, elle est à 8 vagues, je crois, de mobilisation, une 9e est en voie de préparation, qui concernera d'ailleurs les étudiants, ce qui n'est pas le cas encore en Russie. Donc le potentiel de mobilisation ukrainien, il est déjà largement entamé. Est-ce que l'Ukraine peut aller beaucoup plus loin, en tout cas avec des soldats entraînés à minima? Ce n'est pas certain. Par contre, la Russie va créer, chercher à le faire en tout cas, un effet de masse sur la ligne de contact. Donc, d'ailleurs, j'observe que les Ukrainiens ne fanfaronnent pas, et je perçois même une forme d'inquiétude sur l'effet que va produire cette mobilisation partielle, même si elle concerne ou elle peut concerner, et elle va fatalement concerner des éléments qui ne sont pas forcément des soldats aguerris. Donc, je vois plutôt un rééquilibrage en termes de masse humaine sur la ligne de contact. Pour ce qui est des équipements, là aussi, je crois qu'il ne faut pas sous-estimer les industries de défense russes qui tournent à plein régime. On voit aussi qu'il y a des surprises, hein, les drones iraniens qui, ces dernières heures, frappent massivement Odessa. Donc, c'est assez ouvert et nul ne sait en réalité comment ça va se terminer. Le sentiment général ici, c'est que pour la Russie et pour Vladimir Poutine, la défaite n'est pas une option.
Mais donc, tu ne penses pas que Poutine est en danger par la contestation populaire? Les gens vont grogner, certains vont partir. Sur le long terme, ça affaiblit la Russie, mais ça ne met pas en danger le pouvoir de Poutine à court, moyen terme?
À court terme, je ne crois pas. Il faut se méfier des effets d'optique. Il y a, encore une fois, la société russe est bouleversée dans toutes ses composantes. Donc, il y a des manifestations, il y a, on a vu, au Daghestan, des routes qui sont bloquées. Bon, mais ce n'est pas ça qui va entraver le processus et ce n'est pas ça qui va renverser le pouvoir. Après, il y a un deuxième moment possible de fragilisation, c'est quand malheureusement, les cercueils vont rentrer. Ceci dit, on disait la même chose au printemps. On disait, quand les cercueils vont rentrer dans les villes, dans les villages, vous allez voir, il ne s'est rien passé. Alors, la différence qui est majeure, c'est que ça concernait des officiers de carrière et des soldats sous contrat. Cette fois-ci, ce seront des rappelés, des mobilisés. Il est possible que la réaction soit différente. Mais tout dépend aussi des missions qui leur seront assignées. Je ne crois pas que l'ensemble des 300 000 mobilisés officiels iront sur la ligne de front. Il est possible aussi que l'un des calculs de l'état-major russe soit de libérer des unités qui aujourd'hui sont à l'arrière, surveillent des infrastructures, des ponts, des gares, et de les remplacer partiellement, en tout cas, par ces appelés. Donc, c'est la grande inconnue. Ce qui est certain, c'est que la société russe ne peut plus ignorer ce qui se passe. Il faudra voir, encore une fois, géographiquement, socialement, la réaction à ce qui peut paraître une rupture du pacte social tel qu'existant depuis des années en Russie.
Alors, ça peut durer longtemps. Il y a une échéance en Russie, c'est 2024, l'élection présidentielle. Est-ce que ça sera le moment pour Poutine de passer la main ou est-ce qu'il va au contraire vouloir s'accrocher au pouvoir?
Je pense que tout dépendra de ce qui se passera sur le terrain, tout dépendra des évolutions militaires. Soit il y a une forme de stabilisation. C'est peut-être ça aussi, au-delà de la région de Donetsk, où les Russes vont chercher à avancer. Pour le reste, il est possible que les Russes se contentent d'un gel de la situation. Et avec un cessez-le-feu à la coréenne. Je crois que plus personne n'envisage un accord de paix co-signé par la Russie et l'Ukraine. L'Ukraine a fait savoir qu'elle n'accepterait pas d'accord qui ne prévoit pas la restauration de son intégrité territoriale, ce qui paraît difficilement envisageable, même avec des livraisons d'armes occidentales. Donc, il est possible que la Russie se contente, encore une fois, d'un gel de la situation après avoir conquis le reste de la région de Donetsk. Alors évidemment, si les choses ne se passent pas ainsi, si l'armée russe de nouveau recule ou s'effondre localement ou plus généralement, ça aura inévitablement des conséquences politiques et évidemment géopolitiques. Le choix de Vladimir Poutine à l'automne 2023 et les événements de 2024, la présidentielle, dépendent très largement de l'évolution militaire. Est-ce qu'il pourrait partir? C'est possible, il pourrait partir en cas de défaite, ça paraît assez inévitable. Si c'est une défaite flagrante, visible de tous, y compris de la majorité des Russes, il pourrait partir aussi s'il gagne, ou en tout cas s'il est en mesure de présenter quelque chose qui ressemble à une victoire aux yeux d'une majorité de Russes. Il est possible aussi qu'il reste. Le pire des scénarios pour lui, je pense, serait une situation d'entre-deux, un enlisement sans perspective de changement. Et là, il pourrait y avoir du flottement, y compris au sein des élites.
Alors, dans les élites, quels sont les plans de succession ? On voit pas des réformateurs modernistes ouverts venir. Enfin, il est peu probable qu'un nouveau Gorbatchev sorte de la boîte.
Ah, c'est très improbable. Alors, il y a au moins deux raisons. D'abord parce que le régime lui-même s'est considérablement durci, s'est resserré, ça depuis 2012, depuis le retour de Vladimir Poutine au pouvoir. Les éléments modérés qui, à l'époque, gravitaient autour de Medvedev ont rapidement été marginalisés. Medvedev lui-même a été maintenu au poste de Premier ministre. Et puis, ces derniers temps, il a entamé une métamorphose. Mais il y avait des éléments modérés au sein du pouvoir. Et ils étaient même aux affaires. Encore une fois, ils ont été mis sur la touche par Vladimir Poutine et les durs depuis plusieurs années. D'autres libéraux sont tout simplement en exil ou en prison d'ailleurs. L'opposition dite hors système, incarnée par Navalny, son écho était assez marginal au sein de la société, elle n'a tout simplement plus les moyens d'œuvrer en Russie. Tout a été détruit depuis 2 ans par les services de sécurité russes. Donc l'alternative ne peut venir ni de l'opposition hors système, qui de toute façon n'incarnait pas une majorité, ni des libéraux intra-système, en tout cas aujourd'hui. Il y a une autre fraction de la société russe qui est un peu ignorée en Occident, mais qui, à mon avis, est très problématique pour le pouvoir, peut-être plus que les libéraux, ce sont les nationalistes de tout crin, que ce soit des ultra-communistes nostalgiques de l'ère soviétique ou des nostalgiques de l'empire tsariste. Il faut bien comprendre que cette mouvance, qui est très divisée, qui est très fractionnée, mais elle représente probablement un bon tiers de la société, peut-être plus, en tout cas plus que les libéraux, toutes tendances confondues. Et on a vu après la débâcle de Kharkov que Vladimir Poutine était très fortement critiqué pour ce qui était perçu comme une forme de faiblesse et qu'il a dû d'ailleurs procéder à quelques tirs de représailles sur les infrastructures civiles pour calmer ces gens-là. Donc ces gens-là ne sont pas au pouvoir, n'ont pas véritablement de perspective électorale. Je pense qu'ils sont considérés par le Kremlin comme potentiellement plus dangereux, y compris en termes de mobilisation, que les libéraux et Navalny.
Les oligarques ne pèsent plus. Ceux qui sont au pouvoir, c'est vraiment tout l'entourage autour des organes de sécurité.
Absolument. Les oligarques, en tant que classe, pour reprendre une formulation bolchevique, ont été non pas éliminés, mais ont été marginalisés, ont été cantonnés aux affaires économiques. En d'autres termes, Poutine ne demande pas l'avis de Monsieur Sechin ou d'autres sur le cours de la guerre en Ukraine ou sur ce qu'il faut faire de Kherson. Au mieux, lui demande-t-il ce qu'il pense de l'avenir des relations avec l'OPEP, etc., etc. Donc, les oligarques ne pèsent plus sur les choix politiques, mais ça fait longtemps en réalité. Ce qui est nouveau, c'est que depuis le Covid, ça ce n'est pas depuis le 24 février, ce n'est pas l'effet de la guerre en lui-même, c'est plutôt lié dès 2020 au Covid, Poutine voit de moins en moins de monde, y compris les oligarques. Donc là, il y a aussi un phénomène de rétrécissement de la base de contact, rétrécissement du cercle, je dirais, des interlocuteurs réguliers, et ça a certainement joué dans la perception des réalités générales, et en Ukraine en particulier. On sait que le pouvoir coupe des réalités. C'est vrai partout, c'est encore plus vrai en Russie, où les murs du Kremlin sont particulièrement élevés, où dans les faits, Vladimir Poutine ne quitte pratiquement pas ses résidences de Novogaryovo et de Sotchi. Il a un contact très limité avec le peuple. Alors même qu'il, je pense, il le sentait, il connaissait, il parlait également comme les Russes au cours de ses deux premiers mandats. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les oligarques, comme beaucoup d'autres personnes qui avaient un accès à Poutine, ne l'ont plus aujourd'hui.
Dernière question, ce qu'on appelle le Sud global, on voit que la Russie est coupée du monde occidental, mais que le reste se tient un peu à l'écart. Comment tu sens les choses, toi, vues de Moscou, par rapport aux différents postes diplomatiques? Est-ce que c'est durable ou est-ce que il y a des gestes de Poutine qui pourraient le couper de cette neutralité bienveillante à son égard qu'ont les non-occidentaux?
En tout cas, les Russes voient ça. Quand je dis les Russes, ce sont les dirigeants russes, les diplomates, enfin, l'élite qui est aujourd'hui au pouvoir, voit ce tournant vers l'Est et le Sud comme quelque chose de durable, quelque chose qui fait écho d'ailleurs au basculement des rapports de force dans le monde. En gros, le discours ici, c'est l'Occident compte de moins en moins, nous est foncièrement hostile. D'ailleurs, c'est un conflit non pas avec l'Ukraine, mais avec l'Occident global que nous conduisons en Ukraine. Eh bien, tournons-nous vers le Sud, c'est là que se passent les choses finalement, et vont de plus en plus se passer. C'est ça le discours qu'on entend. Et je pense que c'est un discours majoritaire qui déborde, qui commence à déborder au-delà des cercles durs, entre guillemets. On entend de plus en plus, y compris chez des gens qui étaient modérés, des experts qui n'étaient pas des particulièrement radicaux jusqu'au 24 février. Donc, cette affaire va laisser des traces. Également, les sanctions vont laisser des traces, y compris chez ceux, encore une fois, qui étaient plutôt pro-européens, qui voyaient en l'Europe une perspective possible pour la Russie. Je pense que ces gens-là sont pris entre deux feux et n'auront plus voix au chapitre ou opèrent eux aussi un basculement. Alors, ce qui peut faire dérailler ce processus, c'est évidemment une défaite de la Russie ou une faiblesse de la Russie. Le regard que beaucoup de ces pays porte sur Moscou dépend du rapport de force, simplement. Ces dernières années, tu l'as dit, l'impression générale, c'était que la Russie était incontournable, la Russie voyait son importance grandir, que ce soit au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie. Si elle est défaite stratégiquement en Ukraine, elle sera beaucoup moins utile en termes de force d'équilibre à de très nombreux pays du Sud.
Merci Arnaud Dubien pour ce tour d'horizon qui nous permet de mieux comprendre la situation à Moscou.
Merci.